ça se ressent peut-être un petit peu dans mes cartes, mais je suis assez éco-anxieux. C'est un mal qui touche notre génération. Et disons que faire des cartes permet pour moi d'évacuer un petit peu. C'est drôle, ça, je joue avec les données, je m'amuse, c'est créatif. Ça permet de transformer cette angoisse, même si ça me paralyse pas hein, au quotidien, j'arrive à vivre avec, mais ça me permet d'en évacuer un petit peu et surtout d'en faire quelque chose qu'on peut communiquer et partager. Et par exemple, un livre que j'ai fait, qui est sorti cette année, qui s'appelle Notre empreinte sur Terre, il va montrer tout simplement notre empreinte sur Terre à travers cartes et infographies de manière claire, précise et concise. Et donc, ça, c'est des cartes qui permettent vraiment d'avoir un panorama précis de ce qui se passe actuellement sur notre planète, quoi. Donc il y a aussi ce volet là des cartes qui informent dans des pays qu'on connaît pas. Par exemple, moi j'habite à Brest, c'est dur de voir le changement climatique à Brest. Là, on n'a pas excessivement chaud en été, on manque pas d'eau encore. Quand on habite au bord de la Méditerranée, déjà on peut voir clairement la différence. Quand on habite en Inde, on la voit vachement plus. Ces cartes, elles ont aussi pour objectif d'alerter et de permettre aux gens de concrètement d'avoir une idée de ce qui se passe de manière quantifiée. Le voyage d'une goutte d'eau, cette carte-là, elle reprend un petit peu l'idée des bassins versants. C'est un truc, bassin versant, c'est ma passion, quoi. C'est obsessionnel presque. si une goutte d'eau tombe à un endroit, elle va suivre un certain chemin. Et donc, je propose aux gens d'imaginer visuellement par la carte ce trajet, ce périple que la goutte d'eau va faire. Si elle tombe dans le sud de la Suisse, la goutte d'eau, elle va aller jusqu'à la mer du Nord. Elle va connaître un grand voyage à travers le Rhin, par exemple. Si c'est pas le Rhin, ça peut être le Danube, peut-être une petite partie du Danube. Et à l'inverse, si elle tourne un petit peu au sud, en Italie, dans le nord de l'Italie, elle va aller vers la Méditerranée. Donc il y a une ligne comme ça qui se dessine entre les deux parties de l'Europe, qui est assez incroyable, qui correspond à certaines frontières historiques, et qui propose de rebattre les cartes, pour réimaginer des cartes, pour se dire, quand on fait son trajet, sa rando du dimanche, on change d'univers, quoi, en passant cette ligne de partage des eaux. Cette ligne de partage des eaux qui va faire se séparer les gouttes d'eau du nord au sud, elle court vraiment de l'Andalousie à Moscou. Elle fait vraiment une grande ligne comme ça, ininterrompue, où la carte du maximum glaciaire en Europe, où il y a 20 000 ans, il y avait une calotte glaciaire de 5 km sur la Norvège qui descendait jusqu'au Danemark et jusqu'au nord de Londres. Il y a des fois, pour certains sujets, je vais aller sur l'échelle de l'Europe plutôt, parce que ça permet de mieux comprendre. J'aimerais bien faire aussi une carte de l'Europe en l'an 1, à l'époque où l'Europe était encore plus ou moins remplie de forêts. Je trouve ça vachement impressionnant quand même de se rendre compte que notre continent aujourd'hui, qui est le plus anthropisé sur Terre, le plus artificialisé, il pouvait il y a 2000 ans être complètement naturel en fait. Et avec des gens qui vivaient dans la forêt, dans des petits villages, qui commençaient à domestiquer un peu leurs environs. Gros clash avec l'Europe traditionnelle qu'on connaît, avec cette étendue de forêt quoi qui recouvre tout, de l'Irlande à la Roumanie, avec un petit peu le nord de l'Espagne, puis après ça devient aride, donc il y a moins d'arbres. Mais j'ai des photos que j'essaie d'un petit peu de croiser avec les cartes. La carte, elle propose un dézoom complet, une vue d'ensemble, quelque chose peut-être d'un peu plus intellectuel, d'informatif, de scientifique. La photo, elle va montrer une vue à hauteur d'humain, quoi. Ça convoque un peu des autres sens, les odeurs, l'humidité de l'air, parce que ces photos, elles sont prises dans le monde entier, dans des contexte climatique, sociaux complètement différent, et je me sers des cartes pour faire cette complémentarité, et les cartes marchent mieux parce que peu de gens se sont amusés à faire ce dont je parlais, à cette espèce de, d'exercice de piratage de la donnée, de géopoésie, quoi. Et puis c'est bien, ça, parce que quand la carte marche, parce que c'est une idée un petit peu, un peu plus nouvelle, un peu plus créative, les gens finalement vont voir les photos et les deux se nourrissent, je pense. D'autant plus que j'essaie de faire des photos à l'inverse des cartes qui sont très intimes, qui vont vraiment chercher des motifs dans le sable ou des motifs dans l'eau, des trucs très abstraits qui sont pas forcément des grandes photos de paysages très académiques. On a un peu un grand écart entre les deux, mais j'aime bien ce que ça propose, quoi. La poésie, elle se présente d'elle-même dans une thématique, mais pour qu'elle soit perceptible et qu'elle soit mise en valeur, il faut une narration. Et ça, c'est pas le propre du cartographe, mais l'écrivain, le réalisateur, ou ces gens-là qui ont des métiers artistiques, créatifs, vont faire comme le cartographe, ils vont mettre la focale sur cet élément de poésie, et ils vont broder quelque chose autour, un récit, ils vont la mettre en scène. Et pour moi, la poésie, elle est, si on prend une rivière, une cascade, un glacier, elle est là. Elle est évidente, mais après, moi, c'est parce que j'ai fait des études de géographie, toute la journée, je lis des livres sur ça, c'est biaisé. Donc, je connais des gens qui voient un fjord ou une montagne, et ça passe au-dessus de la tête, parce qu'il faut les amener vers ça. C'est un acquis, je dirais, c'est comme le café, hein. Il faut en boire et en boire et en boire, et il faut peut-être quelqu'un pour nous expliquer que le café, c'est pas juste amer, c'est bon. Alors après, il faut boire le bon café, c'est sûr, mais je pense pas qu'il y ait de mauvaise montagne, en revanche. Il y a peut-être du mauvais café, mais il n'y a pas de mauvaise montagne. Et donc c'est à travers cette légère mise en scène, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, qu'on peut se rendre compte de la beauté d'une montagne. Il y a aussi un truc qui est non dit, c'est l'histoire du paysage, qui n'est pas visuellement accessible. Il y a certaines traces, on peut voir des plis, on peut voir des fossiles si on va voir de suffisamment près. Et là, pour moi, quand on ajoute ce côté histoire du paysage, paléontologie, quand on parle du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans... Voilà, où la Paris, c'était une steppe avec des mammouths et des bisons, où il faisait moins 30 en hiver. Je trouve ça génial, mais là, c'est... Et pourtant, c'est là, parce que si on regarde dans le registre fossile, on va trouver des choses. Il y a une poésie à se dire que les paysages changent, qu'ils vont changer, on les fait changer très très vite, là, les pauvres paysages. Et ça, c'est beau, quoi, aussi. C'est à mi-chemin entre l'éco-anxiété et la beauté. De me dire qu'à moi, à l'échelle de ma vie humaine, qui est un grain de sable, hein, à l'échelle de la vie de la Terre, je vais pouvoir... voir un truc qui se passe en normalement plusieurs millions d'années. C'est terrifiant et super cool. Si les rivières devenaient des arbres, c'est une série de cartes que j'ai faite, qui là reprend un truc qu'on peut pas faire plus ancestral, quoi. Les premières civilisations de l'humanité qui se sont bâties au bord de fleuves peuvent en témoigner, hein. Les rivières, ça fait partie de notre ADN, hein, d'Homo sapiens. On a vécu avec, elles nous ont permis de nous développer. Et j'aime bien, en faisant des cartes des rivières, que les gens puissent regarder les petites branches et s'imaginer marcher à côté. Et puis ça ravive des souvenirs aussi, hein, de promenades le long de l'eau, de tous ces mondes qui naissent comme des fleurs sur les branches des rivières. C'est des rivières, des fleuves arbres j'appelle ça. C'est des rivières que je représente sous la forme d'arbres en les retournant, en mettant le tronc en bas et les branches en haut, en faisant un cours d'eau principal bien épais à la manière d'un tronc, et en présentant le tout comme une espèce d'arborescence, quoi, de petites branches, de petites brindilles qui se réunissent, et qui en se réunissant forment des plus grosses branches, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au tronc. Et dans tout cet arbre, dans toute cette espèce de structure, il y a un flux qui, dans le cas de la rivière, est l'eau, dans le cas de l'arbre, c'est la sève, et ces deux flux vont chacun transporter un matériau qui est vital et qui amène la croissance de l'organisme. Pour les rivières, c'est les nutriments du sol, hein, les sédiments qui sont arrachés au sol en amont et qui sont transportés par l'eau et qui sont redistribués dans le reste du bassin versant, enfin sur les rives du fleuve, ce qui permet la croissance de l'agriculture, enfin des végétaux. Et dans l'arbre, c'est la sève en fait, et la sève élaborée qui va prendre aux feuilles leur sucre complexe, qui va l'amener dans le reste de l'arbre pour faire de la croissance, quoi. Donc là, on retrouve ce truc élémentaire, ce qui les bloque, hein, de construction de la vie, hein. Le sol, l'humanité dépend de 1 ou 2 mètres de couches de matière organique à la surface de la planète. Donc là, on peut pas faire plus près du sol et élémentaire. Et dans le cas de l'arbre, c'est pareil, c'est absolument vital, c'est la fabrique de la vie. Donc là, il y a le chêne Loire, il y a le peuplier Rhône, le genévrier Indus, le pin Yukon. Bon, il y en a 24 et ils sont dans le monde entier. Les cartes sont un peu denses souvent. J'aime bien faire des cartes un peu monumentales C'est dur de s'arrêter parce qu'on a envie vraiment de mettre des noms sur chaque petit lac qui apparaît dans la carte qu'on a faite. Donc elles sont grandes pour permettre aux gens de se perdre dans la carte, d'y passer un peu plus de temps que si c'était une carte postale. Elles font en général un format A2, donc 59,4 x 42 cm. Ça peut aller de A1, qui est vraiment deux fois le A2, quoi, très grand. Et je descends pas en dessous de A2 parce que c'est bien une carte A2, ça marche bien. Je travaille avec un imprimeur qui est à Saint-Brieuc. C'est un petit artisan qui fait des réseaux, lui, impression réseau et fine art. Fine art, en fait, c'est la technique que j'utilise pour mes cartes. C'est des imprimantes hyper balèzes qui ont, je crois, 12 cartouches de couleurs pour faire des impressions super fidèles à ce qu'on a fait, nous, sur l'ordinateur. Et c'est des encres qui vont durer 60 ans, 70, je sais plus, qui vont pas bouger, qui vont être impeccables. Et en plus de ça, vu que les cartes sont pleines de détails, pleines de petites fioritures des fois, ce type d'impression est extrêmement précis. Sur un papier un peu épais en plus, donc tout est réuni, papier et encre fine art, pour avoir un rendu parfait d'impression. J'ai un petit projet qui est la route de la pluie. Je propose aux gens un tour de France métropolitaine parmi les différentes pluies de France. Elles ont des différences de fréquence, d'intensité, je dirais même jusqu'à dire de chimie, hein, parce qu'il y a des pluies plus ou moins acides, il y a des pluies qui viennent directement de la mer, d'autres qui ont fait un petit peu de chemin. Et surtout, elles sont mal aimées, les pluies en France. On a souvent cet a priori négatif de la pluie, le mauvais temps, il fait gris, le crachin. Voilà, quand on sort, on se prend la pluie, c'est pas terrible. Moi, j'aimerais bien réhabiliter la pluie, quoi, lui offrir aux gens une chance de l'aimer à nouveau. Parce que quand on a la chance, privilège incroyable d'habiter à Brest, on a cette pluie qui arrive avec la force des vagues presque, on sent taper sur les vitres, sur les toits en zinc là de centre-ville où je suis. Et cette pluie, c'est un témoignage, quoi, de la mer. On sent que c'est de l'eau qui arrive du Gulf Stream, qui a fait des milliers de kilomètres pour nous arriver, quoi. Donc c'est un cadeau qui s'abat sur les toits, qui s'abat sur les rivières, qui va nourrir les paysages, qui va insuffler, voilà, cette vie, ce flux dans le sol, dans les plantes, pour les animaux, pour les humains. On ne peut pas habiter près de la mer, aimer la mer et se plaindre de la pluie. Et aimer en plus les forêts bien vertes, bien verdoyantes de Bretagne et ne pas aimer la pluie. Ça va de pair en fait, c'est un package, hein, géographique. Et donc cette pluie sur les côtes, elle peut être intense, elle peut être très brutale et s'estomper très rapidement parce que ça arrive par vagues. Alors que quand on habite en Lorraine, par exemple dans les Vosges, on va avoir une sorte de bruit de fond, comme une espèce de houle lointaine un petit peu plus effacée, qui va être un écho de la pluie côtière, des tempétuosités de l'océan. Donc là, cette pluie-là, elle va arriver, elle va être un petit peu diminuée hein, par la topographie, puisque c'est la topographie qui fait la pluie. Hein. Ça, faut se l'imaginer, c'est les montagnes, par leur proéminence, qui vont faire grimper les masses d'air pleines d'eau. Les masses d'air pleines d'eau, en grimpant en altitude le long des montagnes, elles vont se refroidir. En se refroidissant, elles vont perdre leur pouvoir des rétentions d'eau, donc elles vont lâcher leur eau. C'est pour ça que dans les Vosges, il pleut beaucoup, et qu'en Alsace, il pleut très peu, parce que les masses d'air qui arrivent de l'océan, elles franchissent les Vosges, elles perdent toute leur eau, et elles arrivent en Alsace, en retombant, elles sont complètement sèches. Donc il y a un microclimat hein, dans les Vosges et en Alsace, dans la vallée d'Alsace. Et donc moi, ouais, ce tour de France de pluie, je me propose aux gens de faire un portrait de la pluie en France, avec la pluie bretonne, la pluie de Beauce, qui est plutôt diminuée, hein, la Beauce est plutôt aride. Après, montrer en montagne comment ça se passe, hein, les précipitations en montagne qui deviennent de la neige, hein, même hein, en hiver. Puis après, aller en Provence, où là, c'est très aride, mais il y a des pluies très fortes en automne, plutôt. Chaque région a sa signature pluviométrique que j'aimerais un petit peu proposer aux gens d'explorer à travers un cheminement comme ça le long de nos paysages. Et puis sinon il y a quelques projets voilà comme j'essaie de faire une carte du chemin de Compostelle sur lequel j'ai marché cet été. Une carte très longue qui ferait 1 mètre sur 20 cm avec le chemin de Compostelle que j'ai fait, donc de Porto à Santiago. Là. Et puis voilà, une espèce d'immersion quoi, avec des textes autour et puis peut-être des photos, je vais voir. Format très long, très bizarre. Une fresque le long de la côte avec les montagnes, les paysages et toutes ces petites villes là qui ponctuent le chemin.
C'était la cartographie poétique, second épisode, avec Perrin Remonté. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.